Vous écoutez Le son de la Terre. Une fois de plus, bienvenue à votre balado agricole Le son de la Terre, propulsé par la Terre de chez nous. C'est à un vent de fraîcheur que je vous convie aujourd'hui pour cette édition, alors que je rencontre, en deuxième portion, une jeune entrepreneur, Chloé Vien, qui a décidé, en compagnie de son conjoint, de se lancer dans le vide, de quitter son emploi et de se lancer dans la production de champignons gourmets. On va parler de ce qui l'a incité à partir MICEP, une ferme verticale de champignons, à Granby. En première partie, je m'entretiens avec notre stagiaire estivale, Nasdar Roy, pour discuter des actualités agricoles des dernières semaines. Il sera question d'aquaculture, de gestion de l'eau, d'un fruit tropical qui pousse chez nous et de la signature de contrat à la sauce 2023. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Alors, qui dit été dit aussi stage d'été. Et j'ai la chance d'accueillir dans mon studio Nasdar Roy, qui est notre stagiaire cet été à la Terre de chez nous. Salut Nasdar, ça va bien?
Oui, ça va très bien, Vincent, et toi?
Ça va très bien. Ben écoute, tu fais partie de la famille pour l'été, alors
oui.
Pourquoi ne pas te mettre à contribution? Alors, c'est toi qui va faire le tour un peu des actualités des dernières semaines, des actualités agricoles avec moi aujourd'hui. Donc, je te propose qu'on commence ça dès maintenant, parce qu'on a quand même plusieurs sujets sur la table.
Oui, parfait.
Alors, en premier lieu, tu as travaillé avec sur un dossier en compagnie de Martin Ménard sur l'aquaculture au Québec. Comment se porte l'industrie aquacole, aquicole?
Oui, l'industrie aquacole, en effet, j'ai travaillé sur un dossier avec Martin Ménard. Donc, le milieu aquacole québécois pourrait aller mieux, selon plusieurs producteurs et aussi selon plusieurs acteurs dans le milieu. En fait, le gouvernement s'est donné comme objectif de doubler la production aquacole d'ici à 2025. Donc, c'est un projet qui est en vigueur depuis 2018. Mais il y a plusieurs doutes par rapport à l'atteinte de cet objectif-là.
Parce que c'est un projet qui est ambitieux? Parce que les infrastructures sont absentes?
En fait, c'est que la production qui a lieu en ce moment, il y a plusieurs infrastructures qui doivent être adaptées justement par les producteurs pour pouvoir produire plus. Parce qu'en fait, pour augmenter la quantité de production, les producteurs doivent respecter plusieurs normes environnementales qui demandent des adaptations justement. Puis il y en a pour plusieurs pour qui c'est un frein parce que ça engendre beaucoup de coûts. Beaucoup d'études aussi, dans certains cas, qui ne peuvent pas se permettre. Là.
Puis au niveau de la production, essentiellement au Québec, on produit pour le Québec. Est-ce qu'on a de l'importation? Il faut faire de l'importation pour pallier, dans le fond.
Oui, c'est ça. En fait, il y a deux types de production, principalement au Québec. L'ensemencement, qui va être... les clients vont surtout être des pourvoiries. La majorité de la production, c'est pour ça. Puis ensuite, il y a aussi le poisson de table. Puis en ce moment, la demande au Québec, c'est de 9 000 à 10 000 tonnes. Mais on en produit seulement 1100 en ce moment.
Oh wow, OK.
Donc, il y a beaucoup d'importations de d'autres pays, par exemple le Chili, qui n'ont pas les mêmes normes environnementales nécessairement. Puis c'est ça que déplorent certains producteurs aussi, c'est qu'on n'est pas soumis, on ne soumet pas en fait les importateurs aux mêmes normes qu'il y a ici.
Oui, fait qu'il y a une disparité qui fait qu'il y a peut-être un avantage compétitif à l'extérieur par rapport à nous. Là.
Exact. Puis c'est pas par manque d'intérêt de certains producteurs d'éventuellement faire des exportations. C'est juste qu'en ce moment, la quantité de production qui se fait dans les piscicultures ne sont pas de taille comparé à ce qui se fait ailleurs. Là. Par exemple, ici, là, un des plus gros qui se fait, c'est un 210 tonnes à la ferme piscicole des Bobines, qui est très innovatrice dans le milieu. Mais il y a des projets à l'international qui peuvent aller jusqu'à des dizaines de milliers de tonnes sur des projets terrestres là, aussi en bassin. Mais on n'a pas ça ici encore.
Puis tout à l'heure, tu parlais de la difficulté un peu de s'adapter aux normes environnementales demandées pour l'expansion, si on veut. Puis tu parlais également de la ferme piscicole des Bobines. Je pense que c'est un exemple de succès au niveau de l'adaptation environnementale.
Oui, en effet. Je me suis entretenue avec Normand Roy, justement, qui est celui qui a fondé la ferme piscicole des Bobines il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Là, en 2004, le gouvernement s'est donné comme objectif de réduire de 40% les rejets de phosphore qu'il y aurait dans les effluents des piscicultures.
Okay.
Puis M. Roy, justement, lui, il s'est tout de suite reviré de bord, puis il a décidé de modifier ses installations, en fait, pour atteindre cet objectif-là. Puis, il a pris les investissements nécessaires, puis il a eu du support du gouvernement. Puis, de son côté, de ce qu'il disait, lui, il a eu toute l'aide nécessaire pour, justement, changer le principe de ses bassins. Donc, on parle, par exemple, d'installer un système de recirculation de l'eau qui fait en sorte que, justement, les rejets sont moins importants dans l'environnement.
Et est-ce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs de diminution de rejets de phosphore de 40 %? C'est quand
oui,
même,
lui,
c'est quand même
c'est
un gros...
Un objectif qui a atteint haut la main. Puis même aujourd'hui encore, là, il y a des nouvelles installations sur leur ferme. Là, c'est son fils Clément Roy qui a pris la relève depuis quelques années. Mais eux sont encore en train d'essayer de réduire encore plus là, leur rejet. Donc, ils innovent encore dans leur bassin. Puis c'est un des éléments que M. Roy, Normand, en fait, disait qu'il trouvait que des fois, il y avait certaines de ses compatriotes qui avaient pas nécessairement cette envie-là de changer leurs installations. Mais ce qu'on entend de d'autres producteurs, par contre, c'est que c'est justement des coûts considérables. Puis que pour certains, c'est pas envisageable quand ils ont des plus petites quantités de production.
Puis justement, au niveau des coûts, est-ce qu'il y a une aide du gouvernement pour faire ces modifications-là, dans cet objectif-là de doubler en 2025?
Oui, il y a des contributions gouvernementales. Puis justement, la ferme piscicole des Bobines, ils ont pu en bénéficier là, il y a plusieurs années. Mais c'est ça, apparemment, pour certains, c'est pas suffisant.
C'est pas assez.
Oui.
C'est certain que l'aquaculture, c'est une filière qui va être intéressante de suivre dans les prochaines années. C'est une filière qui est en développement, puis c'est tant mieux pour les entrepreneurs du Québec. On reste un peu dans le domaine de l'eau, mais sous un tout autre angle, on va discuter un peu de la disponibilité de l'eau en milieu agricole et en milieu rural. Il y a beaucoup d'enjeux, on entend beaucoup des enjeux au niveau des municipalités qui veulent s'étendre, qui ont des manques d'eau, des problématiques reliées à l'accès à l'or bleu. Et d'ailleurs, on a eu un cas assez intéressant qui illustre un peu jusqu'à quel point ça peut se rendre, cette problématique-là. Penses-tu que tu peux nous en parler un peu?
Oui. Ben, en fait, c'est un cas qui est arrivé à Saint-Antoine-de-Tilly, dans Chaudière-Appalaches. C'est les agriculteurs Véronique Letendre et Jérôme Lisotte qui ont la ferme Marie-Jolie qui se sont fait envoyer une lettre comme quoi il allait avoir une expropriation sur leur terre par la municipalité pour y faire construire un puits. Parce qu'apparemment, la municipalité est en manque d'eau. Là. Ils doivent même en ce moment acheter de l'eau, en fait, à l'extérieur. Là. Donc, eux, ils ont été un peu chamboulés là, par cette annonce-là.
J'imagine.
Puis là, en ce moment, ils sont dans des démarches pour justement faire valoir leurs droits sur leur terre. Parce que ça pose de gros enjeux pour eux, là, parce qu'ils ne pourront pas cultiver, en fait, dans un rayon de 100 mètres autour de ce puits-là, si ça arrive, alors que toutes leurs installations, notamment leur grange, ils mentionnaient que c'est justement dans ce rayon de 100 mètres-là, donc ça va beaucoup limiter leurs activités, là, si ça arrive.
Donc c'est ça, la problématique n'est pas nécessairement sur le puits à proprement dit,
non, mais c'est
beaucoup
ça.
Plus sur ce que ça engendre un peu comme problématique dans les alentours.
Exact, parce que justement, c'est Véronique Letendre qui mentionnait que si le puits avait été plus aux extrémités de leur terrain, ça aurait moins posé problème. Mais là, le fait que ça soit central dans leur champ, c'est sûr que ça limite beaucoup leurs activités. Là. Même pour la présence d'animaux proche du puits, là, ils ne pensent pas que ça va être admis.
Ça, j'imagine qu'avec les changements climatiques, comme on le voit pas mal cet été, là, j'imagine que ça va être des problématiques qui vont arriver de plus en plus dans le milieu agricole.
Oui, puis il y a même un expert là, qui s'appelle Frédéric Lasserre, qui spécialise la gouvernance de l'eau, mentionne que c'est déjà un problème ailleurs dans le monde aussi, là, en Inde, en France. Puis là, ici, on commence à le voir. Donc, c'est des problématiques qui vont arriver à probablement d'autres agriculteurs. Mmh. Puis ce que mentionnent ceux de la ferme Marie-Jolie, justement, c'est qu'eux, en se battant pour leur terre, ils veulent voir un peu ça va être quoi la réaction là, du gouvernement, puis aussi à la commission de la protection là, des terres agricoles. Puis,
ça parce
ça va
que c'est
peut-être
un
mettre
peu,
un précédent. Là.
C'est un peu le dernier rempart qui leur reste d'aller à la commission de protection du territoire agricole. C'est quoi un peu la réaction de la ville de Saint-Antoine-de-Tilly par rapport à cette réaction-là de la part des agriculteurs sur leur territoire?
En fait, ce que mentionne Raphaël Rioux, qui est le directeur général de cette municipalité, c'est que c'est un peu leur seule solution, en fait. C'est qu'ils ont fait des analyses hydrologiques ailleurs sur le territoire, puis c'est un peu le seul endroit, c'est un peu leur dernier recours. Là. C'est pas avec plaisir là, qu'ils font ça nécessairement, mais c'est ça, comme j'ai mentionné, la ville doit déjà acheter de l'eau ailleurs, ce qui est extrêmement cher. Puis, il y avait l'option peut-être d'utiliser l'eau du fleuve, qui est proche quand même pour eux. Mais comme plusieurs villes, là, ce qu'ils mentionnaient, c'est qu'eux, ils déversent des rejets dans le Saint-Laurent. Mm-hmm. Donc, malheureusement, c'est pas une option non plus. Donc,
Puis, toute cette, tout ça provient aussi un peu de l'utilisation de l'eau aussi par les agriculteurs. Il va avoir, la réglementation va changer à ce niveau-là dans les prochaines années.
Oui, exact. En ce moment, le gouvernement va commencer à obliger, en fait, d'avoir des autorisations pour le prélèvement de l'eau pour les fermes qui en utilisent beaucoup. En fait, c'est au-dessus de 75 000 litres par jour. Donc, les fermes vont devoir faire les démarches justement pour obtenir ces autorisations-là. Puis, pour plusieurs, encore une fois, ça engendre des coûts de faire ces études-là puis de montrer justement...
ce besoin-là.
Exact. Donc, il y en a plusieurs qui repoussent ce moment-là, mais là, les autorisations vont être demandées très bientôt, là, à partir de 2024 jusqu'en 2029. Donc, ça devient assez urgent pour les agriculteurs de fournir ces documents-là.
En tout cas, chose certaine, Nazdar, c'est un autre dossier qui va avoir, qu'on va devoir suivre de près dans les prochains mois, prochaines années. Et j'imagine, comme on le mentionnait plus tôt, que ça va être des cas qui vont se multiplier de plus en plus avec, encore une fois, les changements climatiques qui sont très présents. Changement climatique, tant qu'à être là-dedans, ça amène aussi du bon jusqu'à un certain point. J'aimerais ça qu'on parle d'un fruit. On a une collègue, Sophie Lachapelle, qui a fait un article sur un fruit. J'en suis désolé, mais je ne connaissais pas du tout ce fruit.
Très inusité, en effet.
Le pawpaw. P-A-W-P-A-W. Alors, je ne sais pas pour les gens qui nous écoutent s'il y en a qui connaissent ce fruit, mais apparemment, on en a au Québec, puis ça pousse au Québec.
On a un groupe de fervents de ce fruit qui s'appelle, en fait, l'Asimini tribolé. Non, trilobé.
L'Asiminié trilobé. Appelons-le le pawpaw, c'est plus
simple. Oui,
c'est plus facile.
Mais son vrai nom, effectivement, c'est l'Asiminié trilobé. Mais oui, il y a un groupe de gens qui s'intéressent beaucoup à ce fruit au Québec. Donc, ce fruit qui, généralement, est cultivé du nord de la Floride jusqu'au sud de l'Ontario. Mais il y a certains producteurs et passionnés qui s'intéressent à le ramener au Québec.
Et puis, c'est quoi exactement comme fruit? Ça a l'air de quoi? Ça goûte quoi?
Le pawpaw, c'est un fruit qui a une chair assez crémeuse, jaune. Puis le goût, apparemment, ça peut ressembler à la banane puis à la mangue.
OK, donc on est vraiment dans le côté, l'aspect tropical de la chose.
Oui, très exotique.
Apparemment, c'est quand même connu au Québec, finalement.
Oui, il y a même des groupes. En fait, un groupe Facebook là, de passionnés qui regroupe près de 3500 membres. Donc, c'est quand même considérable. Puis, il y a des horticulteurs, soit professionnels ou amateurs, là, qui s'y intéressent et qui en cultivent au Québec.
Puis, il y en a dans la région, j'imagine dans toutes les régions un peu au Québec. Là, je voyais dans l'article que Sophie a écrit, un homme qui en cultive dans sa cour, dans la Côte-des-Neiges à Montréal.
Oui, à Montréal.
Donc, il y en a un peu partout. C'est vraiment...
Oui, il y a d'autres pépinières, par exemple. Il y en a à Sherbrooke, à Maskinongé, à Farnham. C'est vraiment très diversifié. Apparemment que la zone idéale pour le cultiver au Québec, ce serait la zone 5B. Donc, dans les autres régions, ça serait plus difficile, mais il y en a qui ont connu beaucoup de succès là, dans ces régions-là.
En tout cas, chose certaine, c'est vraiment un fruit à découvrir et à apprendre à connaître. Si jamais vous voyez dans un marché public... sauter là-dessus, le pawpaw. Alors, après avoir parlé d'un fruit inusité, il y a un jugement inusité qui a été rendu le 8 juin dernier.
En effet, un jugement basé autour d'un emoji.
Oh, wow, OK. On
dur à croire.
On est en 2023, hein, c'est ça. Il faut être de notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
En fait, il y a un producteur de grande culture qui a été condamné à payer 82 000 $ à un de ses clients pour avoir envoyé un pouce en l'air. Un pouce en l'air qui... a été reconnu comme une signature valable pour un contrat qui avait été pris par le client.
Qui avait été passé entre les deux.
Exact. Puis la commande n'avait pas été faite, une commande de lin. Puis le client a poursuivi en cours ce producteur et qui finalement, le contrat a été reconnu comme valable avec cet emoji qui avait été envoyé dans un échange de textos.
C'est ça, l'acheteur a considéré que l'acheteur avait envoyé le contrat au producteur. Le producteur a envoyé un pouce en l'air sur la photo du contrat et selon le juge, c'était assez pour les lier. Donc essentiellement, vu que le lin n'a jamais été livré parce que le pouce en l'air, c'était Pour le producteur, c'était « j'ai bien reçu et voilà ». Mais pour l'acheteur, c'était tout autre. Et en tout cas, c'est à considérer. C'est sûr que ça s'est passé en Saskatchewan, mais c'est quelque chose qui pourrait se passer au Québec aussi. Alors, faites attention quand vous répondez à des textos de vos clients ou d'acheteurs potentiels. Donc, gardons ça en tête. C'est un pouce en l'air qui peut coûter cher.
Faut bien choisir ses emojis maintenant.
Ben, en tout cas, merci beaucoup, Nasdar, d'avoir été présente.
Avec plaisir. Et, merci à toi pour l'invitation.
À une prochaine fois.
À la prochaine.
Aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'entretenir avec une jeune entrepreneur agricole, Chloé Vien, qui a décidé avec son chum Alexandre de se lancer dans le vide en partant un projet de ferme de champignons dans le quartier industriel de Granby. Alors, salut Chloé, comment ça va?
Salut Vincent, ça va vraiment bien, toi?
Ça va très bien. Je voulais t'avoir sur le balado pour qu'on parle un peu principalement de votre projet, mais aussi de qu'est-ce que ça représentait en 2023, en sortie de pandémie et tout, toute cette espèce d'environnement-là. Qu'est-ce que ça représente de se lancer dans le vide un peu puis de partir un projet comme ça? On va y venir, mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, de ton background, de où tu viens puis de ce qui t'a amené un peu à faire ce projet-là de ferme de champignons.
Yes! Alors, moi, je proviens du milieu de l'événementiel. J'ai eu l'opportunité dans le passé de travailler notamment là, pour des grands événements sportifs, notamment le Grand Défi Pierre-Lavoie. J'ai par la suite bifurqué dans le monde agricole. Moi, je proviens d'une famille de pomiculteurs de Rougemont.
Okay.
Dans le passé, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler là, à la cidrerie Milton, qui m'a rapprochée de la terre. À la suite de la pandémie, j'ai embarqué dans le train d'ExpoChamps, Salon de l'agriculture. J'ai eu l'opportunité, en fait, de travailler avec des producteurs. J'ai eu le coup de cœur pour ça. Et évidemment, tu comprends que je suis pas toute seule dans ce projet-là, comme tu as dit. J'ai mon conjoint qui est aussi dans le projet. Ce qui est génial, c'est qu'on est super complémentaires. Mon chum, c'est un amoureux de la nature, un amoureux des végétaux. Quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait la même folie pour les plantes. Quand on a su tous les deux qu'on avait genre 100 plantes chacun, ben, on s'est dit qu'on était un peu malade mental.
OK, oui, c'est ça. Quand on parle de folie, quand on parle de folie, c'est pas à prendre à la légère chez vous, là.
Non, c'est ça. Depuis, on a troqué les plantes pour les champignons. Fait que voilà, puis mon chum, en fait, il a toujours rêvé d'être maraîcher. Son grand-père était botaniste au Jardin botanique de Montréal.
Okay.
C'est dans ses veines, là, l'agriculture. Fait que, à un moment donné, ça nous est tombé dessus. Puis on s'est dit, ben let's go, on part dans cette folie-là de l'agriculture urbaine.
Puis comment est-ce que ça vous est tombé dessus, justement? Y a-tu un moment déclencheur, un déclic incroyable, un éclair qui vous a frappé pour prendre cette décision-là?
Bien, tous les deux, quand on s'est rencontrés, on avait une soif de devenir entrepreneur, de partir un projet. Moi, je proviens d'une famille qui est entrepreneur, justement, de père en fils. Mon conjoint avait une entreprise aussi là, dans le passé en aménagement paysager.
Okay.
Tous les deux, on avait cette drive-là de partir notre projet. On se demandait juste dans quoi, dans le fond. Fait que pendant 2 ans, on se challengeait, on est passé de projets complètement différents, genre de construction, à arriver dans un dans nos vacances l'an passé, à la fin de la pandémie, on est parti à Cuba. Puis juste avant d'aller souper, on est tombé sur un documentaire sur la culture de champignons au Québec,
OK.
sur le fait que c'était une niche en fait qui allait de plus en plus prendre de l'ampleur. Puis on s'est dit, crime, on embarque-tu dans ce train-là? C'est malade. Puis le plus particulier là-dedans, ça devait arriver, j'imagine, c'est que Alexandre avait un livre sur la culture de champignons qu'il avait acheté juste avant de partir en voyage. Et c'était son prochain livre qu'il allait commencer à lire. Fait que tout s'est comme enligné pour se dire, hey, sérieux, ça se pourrait, ce projet-là. Fait que
Hey, ça s'invente pas, mais
les...
fait que tout ça veut dire que c'est en presque un an, un petit peu plus qu'un an, vous êtes devenus des spécialistes du champignon, là.
Exact, on est devenus des mysticulteurs, on a appris sur le tas. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, aujourd'hui, tu sais, on peut tout apprendre là, avec Internet. Fait que on a lu plein de livres sur la mysticulture. On est allé voir, on a passé des fins de semaine au complet à écouter des vidéos YouTube sur comment faire des champignons à la maison. On s'est acheté notre kit de culture à la maison. On a produit des champignons dans mon sous-sol pendant un an. Puis
Le
là, ben, tu
genre de
vois.
champignons qui se mangent, là, pas ceux
Oui. Ben, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, là, mais on ne parle pas ici des champignons blancs ou des champignons magiques, là. On parle vraiment de la magie gastronomique. Fait que, on est vraiment dans les champignons gourmets là, de notre côté.
Fait que là, vous avez fait des tests de sous-sol. J'imagine que votre famille et un peu les amis ont dû se régaler pendant un bout.
Absolument. Même ceux qui disaient, qui se targuaient de ne pas aimer les champignons ont fini par succomber à notre médecine. Vraiment, c'est trippant, là, comme. C'est surtout, en fait, que. Hey, c'est tellement mystérieux, tu sais, on se rend pas compte à quel point le mycélium peut nous apporter dans la vie.
Au niveau de la demande, ça ressemble à quoi un peu la production de champignons, champignons gourmets, on s'entend, au Québec?
Hey, c'est surprenant. Les gens sont hyper curieux, autant les consommateurs que les restaurateurs, en fait. De notre côté, là, la majeure partie de notre production va aller à la restauration directement. C'est vraiment le fun parce que, en fait, c'est un produit qui est maintenant disponible à l'année. Et également, ben, c'est un produit qui arrive, qui est propre. Tu sais, quand on fait une production, quand on va cueillir des champignons dans la forêt, bien, évidemment, ça vient aussi avec ses petits inconvénients. Donc, des petites bestioles, des grains de sable, tout ça. C'est notre côté. Le champignon arrive, il est super propre, il est prêt à consommer directement. Fait que ça, c'est une grosse, grosse plus-value. Puis, on n'en a pas parlé encore, mais nous, dans le fond, chez Nicette Ferme de champignons, bien, c'est une production qui est à l'année. Fait qu'on n'a plus de saison là, pour les champignons. On y va vraiment chaque semaine, on est capable d'avoir une super belle production. Fait qu'à la ferme, on va avoir une petite boutique gourmande. On va aller aussi dans quelques marchés publics, dans justement le coin de la Montérégie. On est à Granby, donc on va être à Racine, on va être à Farnham, peut-être quelques apparitions aussi à Granby, justement. Puis, ben voilà, fait que les gens vont pouvoir venir à la ferme directement aussi.
Puis j'imagine que avant de se lancer, vous aviez fait un peu la tournée des restaurateurs. Tu disais que vous aviez déjà comme 75% de que vous visez environ 75% de votre clientèle parmi les restaurateurs.
Oui,
Fait qu'il y a un engouement vraiment pour ce produit-là.
exact. Selon Ricardo, il s'agit d'un des 10 aliments les plus attendus, en fait, dans l'année 2023. Puis avec raison, là, les champignons, c'est cool. Ça apporte vraiment une belle texture. Ça apporte de l'umami aussi, qui est comme le cinquième goût. Je fais rehausser les saveurs, en fait, d'un plat. Fait que voilà, de la profondeur.
Mais au final, t'aurais pu arrêter après Ricardo. Là. C'est Ricardo qui l'a dit. On a manqué de farine pendant la pandémie parce qu'il disait de faire du pain. Fait que là, je pense que vous êtes en business là-dessus. On parle de... Bon, tu parles de produits depuis tantôt. On parle de champignons, mais dans le fond, vous allez avoir plusieurs variétés de champignons. C'est pas... On pense toujours aux fameux champignons blancs dans une barquette bleue à l'épicerie, là, mais on est ailleurs là, complètement.
Oui, chez Micep, ça n'existe pas, ça. Les champignons blancs, on ne fait pas ce type de champignons-là. Nous, on est vraiment dans le champignon gourmet. Donc, on commence avec 8 variétés. Donc, évidemment, différentes variétés de pleurotes, mais un peu funky quand même, là. Tu sais, des pleurotes bleues, des pleurotes jaunes. On a des pleurotes king aussi qui sont vraiment tripantes, coupées là, comme il faut. Là, on dirait presque des pétoncles. Ça goûte aussi un peu comme le pétoncle. Une belle alternative vegan pour inspirer ses amis végés. Sinon, on a des hérissons aussi. Ça, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est une très grosse boule blanche de champignons. Ça ressemble un peu à un chou-fleur. Ça a un peu, la même dimension qu'un chou-fleur aussi. Puis on a des foliottes aussi. Moi, c'est mes préférés. Là. Dans des risottos, sur des pizzas. C'est vraiment trippant. Puis ça apporte vraiment un bon goût et une belle texture là, dans les plats.
Puis j'imagine que à chaque champignon, sa façon un peu de les cuisiner aussi, puis de les mettre en valeur. Est-ce que vous avez une portion aussi d'enseignement un peu à faire à ce niveau-là?
Tellement. C'est un bon point, ça, Vincent. Dans le fond, on est en train de développer une série de recettes pour justement aider les gens. Je donne un exemple. Moi, à un moment donné, je suis arrivée avec un panier, là, écœurant de champignons pour mes parents. Il y avait plein de variétés. Puis, ils étaient super contents de recevoir ça. Puis là, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire « Hey Chloé, mais comme je suis stressée, là, comment j'apprête ça, ces champignons-là? » Je veux comme faire honneur. Dans le fond, là, il y a tellement de belles façons de les apprêter. Puis, tu sais, à un certain point, mettons... moi, une de mes recettes préférées et super facile à faire, c'est que quand on fait du pulled pork, je fais juste faire moitié pulled pork, moitié pleurotes. Puis quand on le déchiquette, là, par exemple, ben, ça fait vraiment comme la texture puis le même goût que le pulled pork. Fait que c'est vraiment
tu le mets dans la mijoteuse en même temps? Ou?
Oui, exactement. Okay. Fait que tu peux le mettre directement dans ta mijoteuse. Sinon, tu peux aussi les faire revenir juste dans ta poêlonne à côté. Puis quand ton pulled pork il est prêt, ben tu assembles le tout. Sinon, là, pour les enfants, on fait une recette de croquettes de hérisson. Pour vrai, c'est à s'y méprendre avec des croquettes de poulet. Fait que tous les mamans et les papas qui veulent avoir quelque chose un petit peu... faire manger plus de légumes à tes enfants, là, pour vrai, les croquettes de hérisson, c'est surprenant.
Ben, c'est certainement à essayer. De toute façon, je pense qu'il y a quand même, comme tu disais tantôt, sur les internets, il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est aussi d'avoir le produit. D'ailleurs, parlant de produits, comment ça se fait exactement? On parle de production de champignons depuis tantôt, mais comment ça se produit? Quel genre d'environnement, quel genre d'installation vous avez pour produire ça?
Nous, on se concentre sur une production verticale. Fait qu'on mise vraiment sur la hauteur pour être en mesure d'avoir une grande variété de champignons, mais surtout une bonne production. Ici, on est dans un local de 2000 pieds carrés. Puis, on est capable, à terme, là, de faire à peu près 500 kilos de champignons par semaine.
OK.
Fait que ça, c'est du champignon, là, quand même, là. C'est beaucoup, beaucoup de production. Donc, ultimement, on a des salles de fructification dans lesquelles on va miser sur toutes les conditions idéales d'un bel avant-midi d'automne. Fait que, tu sais, température tempérée, petite bruine, taux d'humidité vraiment élevé, lumière. Fait que, de notre côté, on a investi dans un système d'automatisation qui, justement, contrôle là, tous ces paramètres-là. Donc, l'humidité, le changement d'air, la luminosité, puis la température, évidemment. Fait qu'on utilise, c'est ça, on est une ferme urbaine qui fait des champignons dans des blocs. De notre côté, là, on crée dans le fond un substrat qui est un peu comme un terreau si on se compare avec une culture
OK.
maraîchère, là. Mais c'est un terreau qui est à base de granules de bois puis d'écales de soya dans lesquelles, justement, on va ajouter des grains qui ont été colonisés par le mycélium. Puis à ce moment-là, on laisse ça agir pendant 2 semaines là, dans le noir. Puis notre bloc, dans le fond, il devient blanc. Puis par la suite, on est capable de le faire. On lui donne de l'oxygène, puis toutes les belles conditions dont je vous ai parlé tantôt. Puis nos champignons vont se mettre à pousser.
Les salles, le fait que vous ayez 3 salles, est-ce qu'il y a une différence entre les 3 salles pour avoir une rotation tout le temps, ou c'est des différentes variétés, des conditions différentes, ou c'est carrément juste parce que ben on a 3 salles parce que c'est de même, puis c'est l'espace qu'on a de besoin, là?
Ultimement, éventuellement, notre objectif, ça va être vraiment de gérer chacune des salles selon des conditions optimales pour chacune des variétés,
OK.
chacun des cultivars. Fait que, par exemple, la pleurote jaune, c'est une pleurote qui va vraiment, vraiment bien fructifier, faire une belle récolte quand il fait chaud. Fait que ce champignon-là, il a besoin de plus de chaleur que, par exemple, un hérisson qui va mieux fructifier là, à une température de 16 degrés Celsius, par exemple.
Puis, si on revient un peu à, là, bon, là, vous êtes installé jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que ça a été qu'est-ce que ça a été ta première réaction quand tu es rentré dans, parce que vous êtes dans un quartier industriel, vous occupez un bâtiment industriel. Donc, j'imagine que quand vous êtes rentré la première fois, il n'y avait rien. Il y avait du vide. Comment est-ce qu'on se sent justement quand on se lance dans le vide comme ça?
Hey, c'est toute qu'une aventure, ça. Moi, la première fois que je suis rentrée dans le local dans lequel on est, tu sais, c'est un local là, qui était à la base, c'était vraiment un local d'entreposage, justement, pour des sacs agricoles en vrac. Il y en avait jusqu'au plafond. C'est un local dans lequel il y avait juste du gypse et murs, là, puis un plancher. Fait que de notre côté, ça a été beaucoup, beaucoup d'amour qu'on a mis là-dessus, dans ce local-là. Mon père, la première fois qu'il est venu, il n'a pas dormi pendant 2 jours parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que vous avez fait de louer ce local-là? Tellement de travail à faire. Mais on est super fiers. On y a mis beaucoup d'amour, beaucoup d'heures aussi. Alexandre puis moi, puis évidemment, là, on a eu de l'aide de nos familles, on a eu de l'aide de d'autres fermes de champignons aussi qui nous ont donné plein de trucs.
OK.
Fait qu'aujourd'hui, on est super fiers du local dans lequel on est parce que, justement, on y a quand même réfléchi là, pendant 1 an avant de s'implanter dans ce local-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on est super fiers de voir tout le travail qu'on y a mis. Puis l'agriculture intérieure, pour moi, c'est un peu l'agriculture du futur. Fait que je trouve ça le fun parce que les gens, quand ils viennent, sont hyper intrigués. Ils ont le goût de voir ça. Mm-hmm. Si je reprends les mots de ma nièce, elle me disait, mais ma tante, tu peux pas dire que tu as une ferme parce que t'as pas de champ et t'as pas de grange. Fait que ça marche pas, là, ta ferme. Mais dans le fond, c'est la nouvelle façon de faire de l'agriculture plus proche de, justement, notre population puis les entreprises, en fait. Je trouve ça vraiment stimulant de participer à nourrir notre communauté, dans le fond.
Dans votre cas, c'est aussi, tu sais, veux, veux pas, c'est aussi plus accessible aussi pour deux jeunes qui veulent se partir en affaires.
Hey, clairement, là, tu sais, aujourd'hui, on regardait un peu les lopins de terre parce qu'au départ, tu sais, l'agriculture urbaine, c'est pas encore bien implanté partout dans les municipalités. De notre côté, on a été chanceux parce que la ville de Granby venait tout juste d'adopter un programme qui s'appelle Ville nourricière.
OK.
Fait qu'on est une des premières entreprises agricoles qui s'installe dans un quartier industriel.
C'est ça, parce qu'il y a des zones grises encore sur les zonages.
Oui, vraiment. Tu sais, nous, là, dès qu'on disait qu'on faisait une production de champignons, je dirais que 75% de nos intervenants nous disaient « Ah, ben vous devez être zoné agricole. » Alors que, tu sais, on est vraiment dans un processus où on n'a pas besoin, tu sais, on ne fait pas de l'élevage, on n'a pas besoin de terre en tant que telle, on a besoin d'un espace, tout simplement, là, principalement en hauteur pour pouvoir produire nos champignons. Assurément, si on avait été dans un champ, on n'aurait pas pu produire autant, puis on n'aurait surtout pas eu le même rendement qu'on a parce qu'on se souvient que en faisant de la production à l'intérieur à l'année, bien évidemment, là, on n'a pas les lacunes au niveau de l'hiver. Donc, on est capable de produire de notre côté 52 semaines par année. Puis, on n'a pas de problématique de pesticides aussi à injecter pour les agents nuisibles. On est vraiment en mesure là, de gérer 100% une production qui est... là, on n'est pas certifié bio, là, mais je peux vous dire que notre substrat est 100% naturel, dans le fond, justement parce qu'on le fait à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment super.
Puis à quel point c'est important pour vous de tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'importance de la proximité, d'avoir une ferme de proximité. Sur quel facteur est-ce que vous avez misé? Est-ce que c'est plus justement la proximité, le côté un peu environnemental aussi? Au niveau de l'empreinte, c'était quoi un peu qui vous a drivé dans cette aventure-là?
C'est la combinaison de beaucoup de facteurs, je te dirais. Assurément, de notre côté, on a des valeurs environnementales qui sont très fortes. Notre objectif, c'est vraiment de réduire le plus possible notre empreinte environnementale en étant à proximité justement des restaurateurs puis de la population de notre communauté. Bien, ça facilite l'accessibilité. On le sait déjà à la base, le champignon a besoin d'être démocratisé, je dirais, au Québec. Ça ne fait pas nécessairement partie de nos cultures, de notre culture, comme par exemple, tu sais, en Asie, c'est un aliment qui fait partie de leur alimentation quotidienne. Ici, tu sais, faut l'implanter, puis il n'y a rien de mieux que d'être proche des gens pour éliminer la barrière à l'entrée, en fait. Voilà, puis tu sais, de notre côté, encore dans la démocratisation, on souhaite assurément mettre en place des visites guidées de notre ferme pour faire comprendre justement tout le processus puis le travail qu'il y a derrière ce type d'aliment gastronomique-là. Mais aussi ramener les jeunes à, surtout les familles, en fait, leur faire voir que, dans le fond, les enfants, tu sais, le petit champignon là, que tu as dans ton assiette, ben, il n'a pas été produit dans une usine. Il y a des gens derrière, il y a du travail derrière, puis ce que tu manges, c'est riche, en fait.
Je poursuivrai un peu avec le côté entrepreneurial. Tu me disais que, dans le fond, vous aviez surtout, dans un premier temps, l'idée d'être entrepreneur. Donc, c'était ça la première graine qui a germé un peu. Mais là, depuis, votre implication entrepreneuriale a été saluée aussi dans divers galas et distinctions. Peux-tu me parler un peu de l'aventure des derniers mois, des dernières semaines?
Oui, bien, on a eu l'opportunité, en fait, de représenter la région de l'Estrie au défi Ose entreprendre national. Fait que on a passé différents échelons. Donc, on a gagné le niveau local, on a gagné le niveau régional, puis on s'est présenté au niveau national. Mm-hmm. Donc, on était finaliste. Ça a été vraiment, vraiment une belle aventure. Ça nous a permis de rencontrer des entrepreneurs qui sont exactement dans les mêmes bottines que nous. Fait que ça fait du bien aussi, là, tu sais, quand on a des entreprises qui sont différentes, mais qui ont les mêmes types d'enjeux, ça brise l'isolement de discuter avec ces entreprises-là, puis ces entrepreneurs-là, puis aussi de se donner des trucs, tu sais. Fait qu'il y a une belle communauté, en fait, qui s'est tissée autour de nous. Voilà. Malheureusement, on n'a pas gagné au niveau national. On n'a pas gagné le titre, mais je dirais qu'on ressort de ça hyper gagnant parce que justement, on a vraiment fait parler de nous dans notre région. Puis assurément, ça facilite aussi le début de notre grande aventure parce qu'aujourd'hui, on reçoit des courriels. On a reçu une dizaine de CV. De gens qui ont trippé sur notre entreprise puis qui ont envie de joindre à notre aventure au quotidien. On a des gens qui attendent juste ça, là, d'avoir accès à la première école.
Et tu me parlais de l'apport de la communauté, de l'apport de votre communauté grambienne, j'imagine. Ça doit être quelque chose comme ça.
Yes.
Vous avez aussi dernièrement fait une campagne de socio-financement sur la ruche. Comment ça a fonctionné? Ça a-tu bien été? Avez-vous atteint vos objectifs?
On a surpassé nos objectifs. Fait que on est vraiment fiers de ça, là. Et, dans le fond, on a invité les gens à nous aider dans le démarrage de notre entreprise pour justement réduire le plus possible notre empreinte environnementale. Notre ferme se veut éventuellement là, tendre vraiment vers le zéro déchet. Ça nous tient vraiment à cœur. Puis on avait un objectif de 7 500 $ justement en contribution participative. Puis, en fait, on a récolté 8 880 $. Puis, en plus de ça, comme on avait une initiative, justement, qui favorisait le réemploi puis l'élimination des déchets à la source, Recyc Québec nous a proposé de doubler notre objectif de base, donc d'ajouter un 7 500 $ si on atteignait notre objectif de 7 500 $. Donc, aujourd'hui, c'est presque, dans le fond, c'est un petit peu plus que 16 000 $ qu'on a récolté grâce à cette initiative-là. Puis, ça donne un sérieux coup de pouce, honnêtement, là, dans le début de notre départ d'entreprise. Mm-hmm. Les gens ont déjà hâte, en fait, de venir récupérer leur petit panier de champignons, de venir chercher leur sac, de venir faire leur visite guidée. Fait qu'on avait différentes propositions, en fait, de forfaits en contrepartie de leur contribution. Vraiment, là, on a eu 80 contributeurs, généreux contributeurs, puis on est super fiers de ça.
Puis j'imagine qu'au-delà du montant, c'est aussi le sentiment de sentir appuyé, puis de sentir... c'est ça, d'avoir le support de notre communauté. Là.
Ah, absolument. Là, honnêtement, on est j'étais vraiment émue là, à la fin de cette campagne-là, parce que ça veut dire quand même beaucoup, tu sais, quand tu pars, bon, on a fait une bonne étude de marché, on a bien joué nos cartes, je dirais, mais au-delà de tout ça, ben, il faut quand même que les gens soient vraiment là au rendez-vous. Puis cette initiative-là nous a quand même démontré que les gens avaient une curiosité, puis avaient hâte de voir où on s'en allait avec ça, là.
Cette curiosité-là et ce désir de voir et de rencontre aussi, vous allez le vivre tout au courant de l'été, là, j'imagine, avec les marchés publics. Donc, si tu peux juste me refaire le tour de l'endroit où on va pouvoir retrouver vos produits dans la région au cours de l'été, ce serait apprécié.
Absolument. Fait que à partir du 15 juillet, on sera au marché public de Racine à chaque 2 semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre. Puis par la suite, l'autre semaine, on sera au marché public de Farnham. Toutes les semaines, en fait, les gens sont invités à venir à la ferme directement pour venir chercher leurs champignons frais. T'sais, on se rappelle que en fait, quand vous venez dans une ferme comme chez nous, ben votre champignon, il a pas été dans des transports, dans des entrepôts, puis que là, finalement, il est arrivé sur les tablettes, mais qu'il reste 3 jours de vie, là. Nous, c'est comme c'est de la cueillette à l'assiette. Fait que c'est vraiment, vraiment frais, ce que vous venez chercher. Donc, à la ferme, c'est possible de venir aussi. Les heures d'ouverture ne sont pas encore exactement statuées. Fait que notre fiche Google, ce sera toujours la meilleure méthode pour savoir nos heures d'ouverture. Aussi, évidemment, là, les réseaux sociaux. Donc, notre but, c'est éventuellement peut-être faire de la transformation dans un second temps.
OK.
Mais pour le moment, c'est vraiment du champignon frais qu'on propose aux consommateurs. Puis, en fait, on va écouter. Les gens, s'ils ont le goût d'avoir de la transformation, ça va nous faire plaisir là, d'envisager les opportunités en fait qui s'offrent selon les goûts des gens.
Et petit conseil, peut-être imprimer des fiches avec la recette de pulled pork, ce serait peut-être une bonne idée.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Les
J'imagine
petits codes QR, là, c'est revenu à la mode aussi, là, fait
Ouais, avec les
qu'on
produits puis les
assurément,
recettes, là, ce serait pas une mauvaise idée. Fait que, ben écoute, Chloé, merci beaucoup pour ta participation. C'est super gentil. Puis
Merci Vincent.
je vous souhaite à vous deux un excellent démarrage d'entreprise. Puis longue vie à Micep.
Yes, merci.
Salut. Voilà, c'est déjà tout pour cette édition du Son de la Terre. Je tiens personnellement à remercier mes invités Chloé Vien et Nasdar Roy pour leur participation et pour leur temps. Si vous avez des idées d'invités, de sujets ou tout simplement pour nous envoyer un message, vous pouvez nous écrire au balado@laterre.ca ou encore nous envoyer un message privé sur notre page Facebook. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci et à la prochaine!